Donc, je suis médecin psychiatre. J'ai été présidente de la CME du Nouvel Hôpital de Navarre, qui est un établissement psychiatrique, l'établissement psychiatrique référent pour le département de l'Eure, jusqu'à la démission massive de la CME de cet hôpital face au GHT, au refus de GHT. Donc, c'est de cette place-là. C'est à partir de cette place-là que je vais faire mon petit exposé. Et je suis également psychanalyste et membre de l'école. Voilà. Donc, vous savez, on l'a dit, depuis les années 80, une vague scientiste submerge l'exception que constitue la clinique psychiatrique pour la réduire donc à une pratique médicale comme les autres, ce qui conduit à une dissolution progressive mais certaine de la psychiatrie française dans l'evidence-based medicine. Donc la première attaque, 1986, suppression de l'internat en psychiatrie, 1992, le diplôme d'infirmier unique. Voilà. Et maintenant, sur le terrain, suppression du secteur psychiatrique pour un pôle d'activité ou pôle de soins, c'est depuis 2005, avec des missions élargies au-delà du soin, puisque le pôle n'est pas uniquement un secteur pour le soin, mais c'est aussi la gestion. C'est une entité médico-administrative qui regroupe plusieurs secteurs et qui couvre une population qui peut aller jusqu'à 250 000 habitants, alors que le secteur avoisinait les 70 000. Dans le même temps, se sont mis en place des techniques de soins qui tiennent compte de l'éloignement géographique entre les patients et les médecins et qui tentent de pallier à la pénurie médicale. C'est ainsi que la psychiatrie voit se développer la télépsychiatrie. Donc, plus besoin pour le malade et le psychiatre de se déplacer, tout se fait à distance par écran interposé. Suivant la même logique de déconstruction du secteur et face aux difficultés des CMP à répondre à une demande qui est pléthorique, qui se diversifie, eh bien, on assiste à la création d'équipes mobiles spécialisées. Alors, on en a pour les personnes âgées, pour les adolescents, pour les précaires, pour les troubles autistiques, et j'en passe. Cette spécialisation rompt avec le principe même de continuité des soins. Quant aux malades chroniques, ceux qu'on appelait les condamnés à terme, les fonctionnels, ceux qui n'ont rien, les délaissés, les solitaires, qui retenaient l'attention des auteurs du livre blanc de la psychiatrie en 1967, ils gonflent aujourd'hui la grande masse du handicap. Et ils sont passés de la psychiatrie au médico-social. Bien sûr, ça va de pair avec une diminution des budgets, avec un personnel moins formé et donc moins onéreux. Quant aux études de psychiatrie, elles sont dominées par la borne neuropsychiatrique, tandis que les sciences humaines, en la psychanalyse n'en parlons pas, sont reléguées au statut de formation très 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 optionnelle. Quant aux psychologues, eh bien leur formation n'échappe pas aux présupposés neurobiologiques qui gouvernent la psychiatrie, avec le risque pour cette profession qui était jusque-là indépendante de glisser sous tutelle du pouvoir médical. Enfin, l'exception psychiatrique vient de recevoir son coup de grâce avec la loi santé par Marisol Touraine. Voilà. Il s'agit de la création des GHT dont on a parlé. Je vais un petit peu élargir mon propos autour de ça. Jusqu'en 2015, confiant dans la parole de la ministre qui assurait que le projet de loi permettrait de créer des GHT consacrés à la psychiatrie, les établissements publics de santé mentale, les EPSM, avaient cru leur autonomie et leur indépendance acquise face aux établissements publics gérant les spécialités MCO, c'est médecine, chirurgie, obstétrique. Pourtant, un an plus tard, le 1er juillet 2016, contre l'avis de la majorité des professionnels de la psychiatrie, bon, il y a une enclave malheureuse ici, hein, en Seine-Maritime, mais enfin, la plupart des psychiatres des établissements publics sont puis des professionnels hein, aussi, pas des psychiatres, hein, des directeurs, des infirmiers. La plupart des EPSM étaient donc contre ce rattachement. Mais malgré tout, ils ont été intégrés, contre leur volonté, dans des groupements hospitaliers dominés par les établissements MCO, médecine chirurgie obstétrique. Alors, quelques-uns des arguments des tutelles faisant obligation à ces établissements de santé mentale d'intégrer des GHT généralistes. Je vous les donne. Il s'agit d'améliorer le parcours de soins. Il y en a beaucoup d'autres, mais prenons les plus exemplaires. Il s'agit d'améliorer le parcours de soins du patient. Et puisqu'un patient qui est suivi en psychiatrie peut être amené à recevoir des soins somatiques, eh bien pourquoi la psychiatrie resterait-elle en dehors de ces GHT généralistes? Ça va de soi. Face à cet argument de bon sens, la tutelle n'a pas pu entendre que chaque tentative pour intégrer des patients psychiatriques dans des circuits dits normaux, y compris dans le champ du soin, c'est bien plus souvent source de ségrégation que d'intégration. Par ailleurs, au danger de voir s'accentuer l'hospitalocentrisme lié à la structure de ces GHT, le ministère répond que la télémédecine est la solution. Effectivement, on se déplace auprès du patient. Bon, on oublie seulement de dire qu'il y a une télé, on ne voit pas les corps. Mais le véritable enjeu du GHT, on l'a dit, c'est la réduction des dépenses et elle repose sur la mutualisation des moyens. Mutualisation des budgets de formation entre la psychiatrie et le MCO, mutualisation des achats et surtout un acteur extrêmement important maintenant dans les hôpitaux, c'est le DIM. C'est le médecin informaticien, médecin qui s'occupe de l'information médicale à l'hôpital. Le fait du rattachement du DIM de ce médecin à l'hôpital support, son départ de l'hôpital psychiatrique, c'est une perte d'autonomie des hôpitaux psychiatriques quant à leur activité. Le DIM est en effet devenu un acteur central dans le fonctionnement médico-administratif des hôpitaux. Ça paraît rien, mais un DIM qui s'en va d'un hôpital, c'est toute votre file active, c'est tout ça, c'est vos budgets, c'est tout qui part en même temps quand même. Derrière la perte de ce personnage, enfin, ce collègue. Enfin, la tutelle nous assure que les budgets de la psychiatrie seront sanctuarisés. Soit que les hôpitaux MCO ne pourront pas puiser dans la dotation qui revient aux hôpitaux psychiatriques pour combler leur déficit. Ça, c'est toujours fait, mais ça va plus se faire. Ben, pourtant, la loi stipule que les hôpitaux faisant partie d'un même GHT se doivent solidariser. Bon. Enfin, quel poids aura un directeur d'hôpital psychiatrique, quand il en restera, au sein du comité stratégique qui va rassembler l'ensemble des structures rattachées à un même GHT? Quel poids aura ce directeur quand il sera le seul représentant de la psychiatrie sans droit de veto? Par exemple, un directeur qui aura trois EHPAD, trois établissements pour personnes âgées au sein de ce GHT, aura trois voix, alors que le directeur de l'hôpital psychiatrique de Navarre, qui couvre tout le département de l'Eure pour la psychiatrie, n'aura qu'une seule voix. Voilà. La grande majorité des psychiatres ont opté pour une psychiatrie organisée à partir d'une équipe pluridisciplinaire qui fait sa place aux particularités de chaque patient dans un environnement dont la spécificité est prise en compte et qui s'appuie sur le concept de secteur comme outil de prévention, de soins et de réinsertion au plus près des besoins de chacun. À l'opposé, soutenant l'intégration de la psychiatrie à la médecine, et ça c'est vraiment, vous avez cité le Rouvray, mais c'est très actif, pour cet hôpital, à l'opposé, soutenant l'intégration de la psychiatrie à la médecine, on trouve les partisans d'une psychiatrie globalisée, universalisée au nom de la science, où les frontières entre neuro, biogénétique et psychiatrie se sont effacées. Ils optent pour des soins standardisés suivant les principes de l'evidence-based medicine. Entre les deux, qu'est-ce que l'on trouve? Des travailleurs de la santé mentale en mal de repère et en souffrance. Ces attaques répétées contre la psychiatrie ramènent cette discipline à une période antérieure aux années 70, quand elle se fondait dans une matière hybride, la neuropsychiatrie. Ce n'est qu'au décours des événements 68 que les psychiatres ont obtenu la création d'un enseignement spécialisé en psychiatrie, différencié de la neuropsychiatrie. Lacan, qui était interrogé sur cette réforme, répondait en mettant l'accent sur la dimension de sociatrie dont pouvaient désormais s'emparer les psychiatres. Ce terme de sociatrie soulignait la nécessité pour le monde psychiatrique de s'occuper, je le cite, de la fissure sociale dont Lacan prédisait dès ces années 70 qu'elle aspirerait en sa béance toujours plus de personnel, de construction et d'argent. Concernant l'enseignement, les autorités universitaires de l'époque, en 70, s'étaient opposées à la séparation entre psychiatrie et neurologie. Ça n'a pas beaucoup changé. Au nom de l'idéal scientifique du neurologue, qui gouvernait alors dans le champ des maladies mentales, cet idéal se doublait d'une méconnaissance de l'importance du langage dans le fait psychiatrique. Une telle méconnaissance a conduit à une dévaluation de la formation du psychiatre, avec pour conséquence la suspicion toujours maintenue d'une formation du psychiatre qui resterait sous-développée au regard du scientifique. En dépit des états généraux de la psychiatrie a été peu à peu absorbée par la santé mentale, devenant toujours plus un auxiliaire de l'ordre public. Suivant une approche de santé publique normative, repoussant hors de son champ la psychiatrie. En cela, les pratiques psychiatriques reflètent l'état de notre démocratie, où c'est de plus en plus aux marges de la société que s'organisent les soins psychiatriques, la prison et la rue. Et je peux vous assurer que le rapport Fourcade, la Fourcade, nous enterre complètement. Il ne nous propose rien de moins, bien sûr, que le virage ambulatoire. Et il a cette formule aussi, soigner dans la rue. D'accord ? Soigner lors de la rue, le virage ambulatoire est enfermé. Ça veut dire que le patient que vous soignez dans la rue, vous continuerez à le soigner dans la rue, et à moins 10, sans passer par la case d'hospitalisation. Donc ça, c'est un exemple récent que je vis actuellement dans mon service. Alors, il ne s'agit pas de soutenir la psychiatrie pour ce qu'elle n'est plus, mais de maintenir possible la rencontre avec le discours analytique, dans des lieux qui reçoivent des jeunes en formation, des psychiatres, des psychologues, des infirmiers, des éducateurs, des assistants sociaux, et j'en passe. Et d'inventer avec eux, et avec ceux qui sont là aujourd'hui, ce que sera la psychiatrie de demain, sans le secours des discours établis.